Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le diocèse et la cathédrale d'Angers ont été mis sous la protection de Saint Maurice et de ses compagnons martyrs depuis que Saint Martin a apporté à l'évêque d'Angers une fiole contenant du sang de ses héros de la foi. Sur la façade de la cathédrale, en hauteur, on peut voir une frise avec la sculpture de Saint Maurice et un grand nombre de ses compagnons. Pour mieux les connaître, disons quelques mots de leur histoire. Nous sommes en l'année 286 sous les empereurs Dioclétien et Maximien. Il y avait alors dans les armées romaines une légion de soldats qu'on appelait Thébains, car ils venaient de Thèbes en Égypte. Une légion, c'était un corps de 6600 hommes sous les armes. On les avait fait venir du fond de l'Orient pour renforcer l'armée de Maximien. C'étaient des guerriers intrépides dans les combats, pleins de générosité pour l'empereur et encore plus pour Dieu, car ils étaient chrétiens. Cependant, un nouveau vent de persécution se mit à souffler et la légion thébaine reçut l'ordre, avec toute l'armée, de se livrer à la poursuite des chrétiens et de les amener devant l'empereur. La légion était arrivée à ce moment-là à ce qui est aujourd'hui la ville de Saint-Maurice en Valais. Saint-Maurice refusa catégoriquement d'obéir à un tel ordre, tout en sachant que c'était signé son arrêt de mort et celui de ses hommes. Alors cela nous conduit à parler de l'obéissance. Aujourd'hui, où l'on ne parle que des droits de l'homme, plus personne ne veut obéir. Les enfants à leurs parents, les étudiants à leurs maîtres, les employés à leurs patrons, etc. Et le mal se trouve même dans l'Église. Monseigneur Lefebvre disait que la notion qui a été la plus attaquée au Concile Vatican II, c'est la notion d'autorité. Après le Concile, les diocèses devenaient ingouvernables parce que les prêtres ne voulaient plus obéir à leur évêque. Dans les paroisses, les laïcs exigèrent de prendre le pouvoir pour décider de la liturgie, des chants, des lectures qui seraient faites à la messe, etc. Vous avez dû être témoin de cela. Et pour se dispenser d'obéir, aujourd'hui, on caricature l'autorité. On assimile les supérieurs qui essayent encore de gouverner à des tyrans. En bref, on dit qu'aujourd'hui, l'homme étant devenu adulte, il n'y a plus besoin d'obéissance. Donc il est important de parler de l'obéissance, parce qu'elle est une très grande vertu. Sans elle, toute société, tout groupement humain se désagrège. La nécessité de l'obéissance, dit saint Thomas d'Aquin, vient de l'ordre naturel des choses tel qu'il a été créé par Dieu. Aujourd'hui, on ne parle que d'égalité. En fait, dans la nature, il y a beaucoup d'inégalités. Entre les hommes, il y a une diversité de talents, de dons, des compétences plus ou moins grandes, toutes choses qui nécessitent des autorités pour coordonner tout cela, pour orienter les activités des hommes vers le bien commun de la société pour une société harmonieuse. Ceci, c'est sur le plan naturel, mais il en est de même sur le plan surnaturel, dans l'Église. Donc les hommes ont le devoir non seulement d'obéir directement à Dieu, qui est leur Créateur, mais d'obéir aussi à d'autres hommes à qui Dieu a délégué son autorité, qui sont ses intermédiaires. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul dit « Toute autorité vient de Dieu ». Notre Seigneur dit à Pilate « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Et Pilate était pourtant un païen qui adorait les idoles, qui était cruel, etc. Bon, et voilà, son autorité, elle lui venait de Dieu. Et si Dieu veut des intermédiaires, c'est pour nous faire connaître sa volonté. Et dans de très nombreuses occasions, est-ce qu'il y a une journée dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, où il n'y aurait l'obéissance ne serait hors question. Non? Cela fait comprendre aussi, puisque c'est la volonté de Dieu que les autorités doivent nous faire connaître, ça doit faire comprendre aussi qu'on ne peut pas se sauver sans l'obéissance. Attention. Alors ceci nous conduit à plusieurs remarques, et ce que nous allons dire trouve son application dans la famille, dans la cité, dans la vie professionnelle et dans l'Église. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails, nous resterons au niveau des généralités, mais on peut faire toutes les applications. Premièrement, toute personne qui a été revêtue légitimement d'une autorité doit comprendre que Dieu l'a mise à cette place pour être son intermédiaire dans le domaine pour lequel elle a reçu son autorité. Elle ne doit pas aller au-delà de ce domaine, bien sûr. Et cette personne qui a une autorité, eh bien, elle devra rendre compte un jour de sa gestion à Dieu au jour du jugement. Avoir une autorité, c'est un certain honneur peut-être, mais c'est surtout une charge. Toutes les autorités de cette terre auront à rendre compte devant Dieu au jour de leur jugement et au jour du jugement général de la façon dont ils ont rempli leur charge. Autorité religieuse, autorité civile. Et puis autorité familiale, le chef de famille, la mère de famille, vis-à-vis des enfants. Deuxièmement, puisque l'autorité est l'intermédiaire de Dieu dans le domaine qui est le sien pour nous faire connaître sa volonté, il en résulte pour le sujet que obéir, c'est entrer dans le plan de Dieu qui gouverne ainsi les hommes. C'est donc un acte très vertueux. On accomplit en obéissant, on accomplit un devoir qui correspond à l'ordre établi par Dieu lui-même dans l'univers. Bien sûr, pour qu'on puisse parler de vertu, il faut qu'on obéisse, non pas parce qu'on ne peut pas faire autrement, non pas par crainte d'une sanction, non pas parce qu'on est d'accord avec ce qui est demandé, tant mieux, mais ce n'est pas le motif essentiel de l'obéissance. Non pas parce qu'on est l'ami du supérieur et qu'on veut lui faire plaisir, ça peut arriver aussi, mais ce n'est pas non plus le motif premier de l'obéissance. Obéir par vertu, c'est obéir pour entrer, c'est obéir surtout pour entrer dans le plan de Dieu. On obéit parce qu'on voit la volonté de Dieu dans l'ordre du supérieur et que nous voulons nous conformer à cette volonté. Donc cela d'ailleurs a pour conséquence qu'une vraie obéissance vertueuse et mécanique, une vraie obéissance vertueuse et méritoire, ce n'est pas une obéissance purement mécanique, purement extérieure, puisque c'est le bon Dieu qui veut que nous agissions ainsi et qui se sert de quelqu'un pour nous faire connaître. Eh bien, nous devons même essayer d'entrer dans les vues, dans l'intelligence du supérieur qui nous demande cette chose pour agir, eh bien, selon ce que lui souhaite. On est un délégué du supérieur pour agir dans son sens. Ce qui rend l'obéissance digne de louange, dit saint Thomas d'Aquin, c'est la charité qui l'inspire. Et c'est cette charité, cet amour de Dieu qui seul rend l'obéissance praticable dans toutes les circonstances. Spécialement quand ce qui nous est demandé est pénible ou désagréable. Alors à ce moment-là, eh bien, on obéit pour Dieu, pour notre Seigneur. On se dit, ben voilà, c'est la croix qu'aujourd'hui notre Seigneur veut me donner. Il ne faut jamais s'arrêter à la personne humaine du supérieur. Tout de suite remonter à notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on dit que l'obéissance est la plus proche des vertus théologales parce qu'elle nous oblige à remonter vers Dieu pour être pratiquée. Troisièmement, que toute autorité soit l'intermédiaire de Dieu dans le domaine qui est le sien ne rend pas non plus l'autorité, celui qui en est le dépositaire, ne le rend pas non plus nécessairement infaillible. Évident. Alors que se passe-t-il lorsque le supérieur se trompe? D'abord, on a peut-être jugé un peu vite qu'il se trompait. Un supérieur a souvent des éléments qu'on n'a pas. Il faut bien réfléchir à cela. Mais s'il est clair qu'il se trompe, eh bien la simplicité et la franchise chrétienne demandent qu'on lui dise simplement et humblement nos objections, et il sera peut-être très content parce qu'il n'avait pas vu telle ou telle chose. Et il demande qu'on obéisse, qu'on soit intelligent, qu'on ne soit pas des robots. Mais si après cela il maintient son ordre et qu'il n'y a rien contre la foi et les mœurs, bien sûr, eh bien il faut obéir. On a fait notre devoir, maintenant c'est lui qui prend la responsabilité. Il faut obéir. Mais non pas obéir de mauvaise grâce, en râlant, mais en essayant de faire de notre mieux pour parer aux difficultés afin que la chose réussisse. Et Dieu se servira du mérite de notre obéissance pour éclairer le supérieur ou pour arranger les choses. Et le bon Dieu, des fois, fait des miracles dans ce domaine. L'obéissance est une vertu qui ne peut se pratiquer à la perfection, encore une fois, redisons-le, que dans une perspective surnaturelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, si l'obéissance disparaît, ce n'est pas seulement parce que se soumettre répugne à l'orgueil de l'homme moderne. C'est aussi parce que la plupart des autorités, hélas, se sont déconsidérées par leur vie immorale, parfois même par leur incompétence, par leur rudesse, etc. Il n'y a plus de vrai chef aujourd'hui. Constatation, c'est pour ça que ça va si mal. On peut dire aussi, d'ailleurs, nous avons peut-être aussi les chefs que nous méritons. Parlons de la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, du côté des sujets, quand les choses ne vont pas, ce qui n'est pas rare, c'est souvent le mauvais esprit, la critique continuelle, toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Et les catholiques, eux aussi, critiquent avec tout le monde. Ah non, il ne faut pas se laisser entraîner comme cela, nous devons montrer l'exemple. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tout va bien quand tout va mal. Mais d'abord, on doit toujours respecter l'autorité légitime en tant que telle. Sinon, on remet en cause l'ordre divin des choses. Alors on est révolutionnaire. C'est grave cela. Lorsque l'apôtre saint Paul comparut devant le Sanhédrin, le grand prêtre ordonna de frapper Paul au visage. Réponse de Paul. Dieu te frappera, muraille blanchie. Et alors ceux qui étaient là dirent, tu maudis le grand prêtre de Dieu? Saint Paul, tout confus, s'excusa aussitôt. Je ne savais pas, mes frères, que ce fut le grand prêtre, car il est écrit, tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Donc, donnant l'exemple du respect de l'autorité en tant que telle, eh bien, on s'efforcera de pallier au mieux ses déficiences en restant à sa place. On ne peut pas prendre la place de l'autorité, ce n'est pas à nous de nous faire l'autorité. Et on essaye de pallier au mieux les déficiences pour le bien commun et en respectant les autorités. Et si l'autorité demande des choses clairement opposées à la morale, ou bien opposées à la foi, ou dangereuses pour la foi, comme aujourd'hui dans l'Église, alors les supérieurs, pour ce point précis, ne sont plus l'intermédiaire de Dieu, c'est évident. Et la vertu, ici, consiste à désobéir, et obéir, ici, ce serait un péché. Saint Maurice ne pouvait donc obéir à cet ordre qui lui demandait de se mettre à la poursuite des chrétiens. Il convoqua aussitôt toute la Légion. Tous d'un seul homme lui répondirent qu'ils étaient prêts à mourir plutôt que d'agir contre Dieu. Quand Maximien, qui était dans la région, apprit qu'une de ses légions avait arrêté sa marche et refusait de poursuivre les chrétiens, il entra dans une violente colère. Il ordonna aux autres légions de les encercler et de massacrer le 10e de la légion thébaine, pensant que cela les terroriserait tellement qu'ils finiraient par obéir. Mais après cette première exécution, les soldats refusaient toujours d'avancer. Ils crièrent qu'ils avaient en abomination le culte des idoles, qu'ils resteraient toujours fidèles au vrai Dieu, que jamais ils ne persécuteraient d'autres chrétiens. Ne s'arrêtant pas dans sa furie, l'empereur fit massacrer encore un autre 10e des soldats. Pendant ce temps, les légionnaires chrétiens s'exhortaient mutuellement à persévérer dans leur résolution. Saint Maurice surtout relevait leur courage, leur disant qu'ils devaient suivre l'exemple de ceux qui venaient d'être tués pour le Christ et qui étaient déjà au ciel. Alors les légionnaires envoyèrent une députation à l'empereur pour lui porter une lettre. Avant le concile, d'ailleurs, chaque année, l'évêque d'Angers montait en chaire dans la cathédrale pour lire cette lettre en la fête de Saint Maurice. Il n'y a pas le temps de vous la lire en entier, mais voici au moins quelques extraits Vous verrez, ils sont fermes, mais respectueux. Ils n'insultent pas l'empereur. Empereur, nous sommes vos soldats. Mais en même temps, et nous nous faisons gloire de le confesser hautement, nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons, ô empereur, vous obéir jusqu'à renier le Dieu créateur de toutes choses, notre maître et notre créateur qui est aussi le vôtre, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Nous vous offrons nos bras contre l'ennemi que vous voudrez frapper, quel qu'il soit. Mais nous tenons que c'est un crime de les tremper dans le sang des innocents. Ces mains savent combattre contre des ennemis et contre des impies. Elles ne savent point égorger des amis de Dieu et des frères. Ce sont des chrétiens que vous ordonnez de rechercher pour les punir. Mais nous sommes chrétiens, nous, et nous voici. Vos vœux sont donc satisfaits, vous n'avez plus besoin d'en chercher d'autres. Nous aimons mieux mourir plutôt que de donner la mort à des innocents. Nous préférons périr innocents que vivre coupables. Si vous faites encore des lois contre nous, s'il vous reste de nouveaux ordres à donner, de nouvelles sentences à prononcer, le feu, la torture, le fer ne nous effraient pas. Nous sommes prêts à mourir. Nous confessons hautement que nous sommes chrétiens et que nous ne pouvons pas persécuter des chrétiens. Hélas, le cœur de l'empereur ne fit que s'endurcir. Il donna l'ordre d'anéantir toute la légion cette fois. Les soldats tirèrent leurs épées. Les légionnaires chrétiens déposèrent les armes. Les uns tendaient leurs coups, les autres présentèrent leurs gorges. Ils se laissèrent tous massacrer en silence, pardonnant à leurs bourreaux, préférant mourir plutôt que de trahir notre Seigneur. Traversons maintenant les siècles et rendons-nous au Brésil, dans la ville de Vila Velha, le 22 septembre 1625, en la fête de Saint-Maurice et de sa Légion. Les calvinistes s'apprêtaient à la prendre d'assaut lorsque, soudain, dans le ciel, ils virent une multitude de légionnaires à pied et à cheval, armés de boucliers, de lances, de glaives étincelants, s'avancer dans leur direction. Saint-Maurice et sa Légion arrivaient. Ce fut une fuite éperdue chez les protestants. Dieu voulait montrer la gloire qui est maintenant celle de ses légionnaires fidèles, et il leur donnait l'honneur de revenir combattre sur cette terre pour protéger les catholiques d'un immense pays. Honorons nos martyrs, mes frères. Ils sont nos héros. Dans toute l'histoire de l'Église, et jusqu'aujourd'hui, en Chine communiste et dans les pays attaqués par l'islam, ce sont des cohortes de chrétiens de tous les âges, de toutes les conditions sociales, qui ont préféré verser leur sang plutôt que de trahir notre Seigneur. Pensons ici d'ailleurs au martyr d'Avrillé, à quelques mètres d'ici, entre 2 et 3 000, c'était sur la propriété de ces lieux, de ce couvent. Eh bien, c'est grâce au sacrifice de tous ces martyrs que la foi continue à briller aujourd'hui sur cette terre et que nous sommes dans cette Église encore aujourd'hui, sinon il n'y aurait plus de catholicisme depuis longtemps sur terre. Alors que leur exemple et leur intercession nous aident à continuer à obéir à Dieu au milieu de ce monde athée et de plus en plus anticatholique. Demandons cette grâce par leur intercession au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.